Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus. Moi c'est Dorian Mampakamadila et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui nous fait du bien, l'humour. Je ne sais pas si vous avez déjà connu à l'école cette personne qui faisait toujours un peu le clown et à qui on disait souvent « mais t'as qu'à faire humoriste », comme si au fond il suffisait de faire le débile pour faire rire. Je suis en compagnie de Marie Chantraine, avec qui nous allons présenter l'émission, et avec notre équipe, Aurélie Manelé, Mohamed Takat et Eléa Tombolo Kabila. Nous nous sommes posé cette question, est-ce que l'humour c'est de l'art? Et finalement, c'est quoi l'humour en soi? On a eu envie d'explorer ce sujet sous plusieurs angles. D'abord, est-ce que tout le monde peut être humoriste? Parce que se trouver drôle entre amis c'est une chose, mais faire rire une salle entière, c'en est une autre. On s'est aussi rendu compte que ce qui est génial avec l'humour, c'est son accessibilité. Pas besoin de codes compliqués, ni de longues études pour comprendre, on est là pour rire, mais pour dénoncer, questionner, provoquer parfois. Mais forcément, il y a des limites, on peut rire de tout, mais à quel prix? Et comment faire pour ne pas blesser quand on cherche à faire rire? Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'humour est partout. Il détend l'atmosphère, il rapproche, il réconforte. C'est exactement ce qu'on a vécu quand on est allé dans la rue, micro à la main. On a posé quelques questions à des inconnus et très vite, on a ri ensemble. Alors on leur a demandé, c'était quand votre dernier vrai fou rire? Et voici leur réponse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre dernier fou rire par hasard?
Moi, c'était du coup tout à l'heure en classe et je regardais un TikTok, mais c'était pas très drôle juste parce que c'était dans le contexte de la classe et que du coup c'était très silencieux. Je regardais un TikTok et ça m'a juste fait rire.
J'en ai régulièrement, mais avec des bêtes blagues, ça m'arrive aussi. Puis je reste bloquée, donc je ris pendant un quart d'heure, mais je ne le retrouve pas là directement.
Mon fou rire, c'est tout le temps, hein. J'ai vraiment pas de limite.
C'était hier avec un pote à moi, j'étais en train de parler, mais en fait, il est en train de parler de caca, la vérité, je vais pas vous mentir. Et il est en train d'écrire un truc de smiley, genre j'ai les smileys que t'envoies dans les messages. Et il m'a dit ouais c'était la même forme, etc. Voilà, la vérité les gars.
Dernier sourire, fourru, là c'est un peu compliqué pour moi. Ça c'est chaque seconde.
Comme vous avez pu l'entendre, l'humour, ça rapproche. Ça crée une connexion et surtout, c'est contagieux. Le rire, ce n'est pas juste individuel, c'est un phénomène social. Il crée une forme de complicité, même entre des personnes qui ne se connaissent pas vraiment. C'est ce que expliquait déjà le philosophe français Henri Bergson. Et comme le résume très bien l'artiste Victor Borge, le rire est la plus courte distance entre deux personnes.
Et ma dernière question pour vous, c'est est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de drôle?
Je suis plutôt sérieux, de base.
Non, pas vraiment. Je suis pas drôle, mais j'aime bien jouer avec les mots.
Drôle? Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, je suis drôle, ouais.
Ok, bah faites-nous une blague. Quand on me demande de faire une blague, je considère pas ça vraiment comme de l'humour. Pour moi, l'humour, c'est plus un truc que, par exemple, quand t'es avec tes potes, que tu rigoles et tout, c'est genre dans une conversation.
Une blague? Là, maintenant? Waouh, j'ai pas de blague en tête, hein.
Oh. Non, mais arrête, j'ai le strac, là, il met le micro devant moi et tout. C'est une ref, un strac, hein. Je sais que ça se dit pas.
C'était
drôle, bah voilà, vous avez rigolé.
Moi, je fais pas de blague, moi.
Ça vient tout seul.
Donc plutôt spontané.
Exactement.
Comme nous avons pu l'entendre, faire des blagues n'est pas aussi simple pour le commun des mortels que ce que l'on pense. Entre stress et manque d'inspiration, le métier d'humoriste n'est pas offert aux premiers rigolos du coin. Le métier d'humoriste consiste à faire rire un public en utilisant l'humour sous différentes formes. Le rôle principal d'un humoriste est de créer des histoires drôles ou des blagues inspirées de la vie de tous les jours afin de divertir, de faire réfléchir ou d'aborder des sujets parfois sérieux mais de manière plus légère avec le public. Cela dit, le travail d'humoriste demande un vrai travail d'écriture, ainsi que la construction de son propre univers. Les humoristes peuvent se produire dans des cafés-théâtres, des salles de spectacle ou sur des scènes de stand-up, et parfois même jouer dans des films. Souvent, les humoristes sont indépendants, certains arrivent à vivre de leur spectacle, tandis que d'autres rencontrent des difficultés. Il existe des aides de l'État pour les aider, mais elles ne sont ni simples à obtenir ni garanties en Belgique. Malgré ces aides, plusieurs difficultés persistent. Le métier d'humoriste n'est pas toujours reconnu comme un art officiel. La concurrence est forte et les cachets sont souvent bas, ce qui rend la stabilité financière compliquée dans ces métiers. Pour soutenir ces propos, nous avons eu l'occasion d'interviewer une personne du milieu qui nous partagera son expérience. Nous avons eu l'occasion d'interviewer Swahili, alias Soussou BX, humoriste le plus drôle, mais aussi plus controversé de Bruxelles. Il n'a pas peur de le dire, c'est un drari et n'hésite pas à tacler des sujets sensibles. Tout droit sorti d'Anderlecht, son adolescence l'a mené dans toutes les communes de la ville. Mais ce qui a tout changé pour lui, c'est quand il se retrouve devant le tribunal de jeunesse. Le juge lui demande comme moyen de réintégration de faire du théâtre. Ces tumultes avec la justice lui ont finalement valu de découvrir une passion pour la scène et un rêve pour le stand-up qu'il a pu réaliser malgré les difficultés. Nous avons pu lui poser plusieurs questions sur le métier d'humoriste, la vérité du milieu, l'acceptation de l'entourage et les différences entre le théâtre et le stand-up.
Mais justement, je me posais la question, est-ce que cet aspect de spontanéité stand-up est obligatoire pour faire rire le public? Ou alors, encore une fois, c'est propre à chacun? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ou alors c'est inné?
Bah oui et non, je vais nuancer parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il faut cette spontanéité, il faut savoir improviser, ça fait partie de la spontanéité. C'est pas des blagues qu'on écrit, c'est ce qui nous vient directement en tête et on le balance. Il faut savoir meubler, tout ça, c'est des choses que tu... Je vais pas dire que t'es né avec, je suppose que c'est aussi quelque chose que t'apprends dans ta jeunesse, si t'as grandi dans une famille qui vanne, etc. ou dans un milieu qui vanne, c'est quelque chose que t'apprends malgré toi. Mais quand t'arrives dans le milieu du stand-up et t'as déjà cette capacité, on va dire, un peu plus développée, c'est clair qu'on pourra appeler ça de la spontanéité, parce que ce sera les premières fois que tu vas aller faire sur scène et tout. Mais en revanche, ça s'apprend. C'est-à-dire moi, par exemple, il y a des vannes qui me sont sorties en improvisation, que j'ai pu réutiliser des milliers de fois, parce que j'avais plus ou moins la même situation qui se trouvait devant moi sur scène, quoi. Donc en vrai, c'est inné, mais en même temps, ça s'apprend.
Pour revenir avec ce que vous avez dit par rapport à la famille ou l'entourage, est-ce que ça a été simple de se lancer dans l'humour, on va dire, avec le regard, par exemple, de parents qui ne vont pas spécialement comprendre que c'est un métier sérieux ou même un entourage qui se laisse aller par les préjugés que peut avoir le métier? Donc, est-ce que ça a été simple pour vous de vous lancer là-dedans?
Je crois que c'est plus ou moins simple pour moi. On a chacun et chacune notre taux de difficulté face au fait qu'aujourd'hui, dans notre époque, tout le monde est confronté à une certaine ouverture d'esprit. Mes parents, ils ont été confrontés à cette ouverture d'esprit parce qu'eux, ils n'ont pas été habitués à ce genre de choses. C'est surtout que c'est une famille d'ouvriers, etc. Le stand-up, c'est impensable. Ils me voient concrètement comme un clown, on va se dire la vérité. Mais voilà, il y a une partie de ma famille qui a accepté cette ouverture d'esprit, genre ma mère. Ma mère, au début, moi, je sais très bien ce qu'elle pense de moi, ma mère, tu vois. Elle me voit comme un petit gamin qui essaie de suivre ses rêves. Mais elle aussi, encore une fois, elle est confrontée à la réalité de la vie, tu vois. Comme on vient d'une famille très pauvre aussi, il y en a qui ne vont pas accepter. Et souvent, c'est la figure paternelle. Ouais, voilà, tu vois, il y en a qui ne vont pas accepter. Ils vont dire, mais non, t'es con, t'es en train de foutre ta vie en l'air. T'as plus de chances d'être heureux si tu prends un CDI, quoi. Et moi, j'ai refusé les CDI. J'ai eu accès aux CDI et tout. Je me suis auto-saboté pour pouvoir, entre guillemets, vivre mon rêve.
Et on se posait la question, est-ce que, en tant que personne maghrébine, issue de quartiers populaires, comme vous avez pu le mentionner avant, vous avez l'impression d'avoir un quelconque devoir de dénoncer les inégalités qu'on peut retrouver dans le monde?
Ça vient d'office, parce que chacun a sa niche. Si j'étais un autre profil et que j'avais touché les mêmes que moi, il y a toujours quelque chose qui vient avec le public qui te suit quand tu te fais un public. Je vais vous donner un exemple. Là, maintenant, je suis plus suivi par la jeune gauche, on va dire. Et je sens que j'ai certaines contraintes. En fait, c'est ce qu'on appelle les effets de mode. Avec les effets de mode vient ce qu'il faut respecter pour être à la mode. Donc moi, entre guillemets, c'est toujours des contraintes qui viennent avec. Et comme c'était, entre guillemets, le premier groupe que j'ai réussi à toucher avec mon premier spectacle, qui s'appelait justement Dreré, qui faisait référence à justement ce profil-là bruxellois, j'ai vite compris que dans mes textes, dans ma manière d'écrire, c'est eux qui se reconnaissaient le plus dans ce que j'écrivais quand je le voyais dans une salle. Eux, ils étaient toujours derrière, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ils ont commencé à se passer le mot de « ouais, il y a un gars, il est comme nous, il fait du stand-up et tout ». Et du coup, j'ai direct compris que c'était ça ma niche. J'ai été le chercher et avec ce public est venu justement ce genre de mal-être qu'on vit tous ensemble. C'est finalement une injonction qu'on vit en groupe. Et ouais, d'office, c'est une responsabilité qui vient avec le public. Après, il y a des gens qui font... En fait, il y a beaucoup qui font sans à la base. Il y a toujours un producteur qui va venir si tu fais ce genre de choses. Si tu commences à être politique, à dénoncer des choses dans ton stand-up, il y a toujours... Tu vas toujours arriver à un stade où les gens ils vont commencer à te regarder, dans le milieu, hein, les gens vont commencer à te regarder en mode « Ah, mais tu devrais être plus large. » Tu vois, ils vont te dire « Ouais, ça va fonctionner, mais s'il n'y a que des gens comme toi dans le public, tu vois, tu pourrais être plus large, essayer de toucher, je sais pas, moi. » En fait, en gros, ce qu'ils te disent, c'est « Fais des sketchs sur le métro et arrête de nous faire chier, tu vois. » Et en vrai, c'est un vrai argument. parce qu'il est réel. Il ne devrait pas être utilisé à cette fin-là, mais il est réel, l'argument. Moi, je le vois, tu vois, quand j'écris des sketchs, c'est pas, quand je fais mon spectacle, ce n'est pas la même chose que quand j'écris des sketchs que je vais jouer dans un comédie-club où je ne connais pas la moitié de la salle, tu vois. C'est trop risqué.
Est-ce que malgré, on va dire, cette hiérarchie qui se crée naturellement, comme vous l'avez dit, est-ce que vous considérez, selon vous, que l'humour est une forme d'art à part entière ?
Évidemment. Je pense que quelque chose est de l'art à partir du moment où tu peux faire passer des messages à travers une discipline, peu importe quelle qu'elle soit, peinture ou... Et je crois que faire passer un message, pas forcément un message, mais une émotion collective, un truc comme ça, quelque chose qui se crée, ça doit être un truc d'énergie, d'âme qui se connecte par le biais d'une discipline, un truc comme ça.
Eh bien, un grand merci. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le futur et surtout où on pourrait vous retrouver ?
Souhaitez-moi de pouvoir vivre de mon art humblement. Voilà. Pas trop, à la limite du riche, j'ai pas trop envie d'être riche. Et où vous pourrez me voir, normalement Bruxelles, je crois que j'arrêterai jamais de jouer à Bruxelles, même si je deviens une star internationale, même en anglais, si je vais en Amérique et tout, il y aura toujours des dates à Bruxelles, j'adore Bruxelles. Donc,
Soirée de stand-up de prévu, où on pourrait vous retrouver pour le futur ?
Ouais, je suis en train d'écrire mon deuxième spectacle. J'ai pas encore le titre. Enfin, si, j'ai déjà le titre, mais il est un peu vulgaire, donc je crois pas que je vais le dire au micro. Le titre, c'est Je vous baisse tous, inclusif, tu vois. Et je vais jouer les premières fois de mes nouveaux sketchs le 20 décembre au Comedy Cat, où on s'est rencontrés.
Soussou BX, un grand merci en tout cas.
Notre drague bruxellois n'a pas peur de choquer et il n'a pas hésité à confirmer sa réputation par le nom de son deuxième spectacle. Il n'est pas le seul à apprécier cette utilisation dite plus familière de notre belle langue française.
Mélanie Akari est née à Nivelles en 1995. C'est donc un pur produit brabançon wallon que nous avons interviewé. Jeune femme brillante qui a réussi la plupart des activités qu'elle a entreprises, en passant de chancelière de cercle à recruter lieutenante pour se rendre dans les airs, elle aime le mettre en avant, elle n'a pas la langue dans sa poche. Si elle doit remettre Romain à sa place quand il parle de son cul, elle le fera. Mais si elle doit faire une chronique en alexandrin, elle le fera aussi. Sa casquette polyvalente, elle la tient constamment, puisque la journée, elle travaille dans les datas avec les Néerlandais, et le soir, elle joue dans un comédie club. Finalement, apparence de princesse et franc-parler assumé, c'est là tout le merveilleux paradoxe de Mélanie. La première question que nous avons décidé de lui poser est... Est-ce que pour vous, c'est important de vulgariser et accessibiliser l'humour pour le plus grand nombre ?
Ça rend accessible plein de choses. Ça rend accessible... Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Ça rend accessible... Aujourd'hui, j'ai fait une chronique sur l'IA. Parfois, l'IA, on a l'impression que c'est pas du tout accessible et qu'on n'y comprend rien. Mais en fait, vulgariser des sujets de société, que ce soit économique, politique, technologie, de santé... Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est et rendre accessible et au plus grand nombre. Après, je n'ai pas vocation à plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que ça s'entend. Hein. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on ne cherche pas à plaire à tout le monde qu'on cherche à diviser. Mais en tout cas, rendre accessible l'humour et vulgariser les sujets de société, pour moi, c'est très, très important. Ça m'a été reproché un petit peu. Hein. J'ai eu des commentaires de mecs qui me disaient « Pourquoi tu parles comme une banlieusarde parisienne ?» Et oui, c'est un choix. Je pourrais faire des chroniques beaucoup plus soutenues. J'ai largement les capacités de le faire. Sauf que je ne le fais pas parce que déjà, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas comme ça que je parle dans la vraie vie. Alors évidemment, je fais toujours un petit effort quand même pour les chroniques. Je ne parle pas exactement comme je parle à l'oral. Mais en fait, parce que ce serait juste... Enfin, allez, il y a un peu une sorte de mépris de classe, quoi. Les gens qui parlent comme moi, ils ont tout autant le droit au chapitre. Ils ont tout autant une voix et ils existent tout autant. On ne va pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Donc c'est ça, je veux être un, fidèle à moi-même. Et deux, je veux représenter des gens comme moi. Et d'autres, hein, mais aussi des... On est là, hein, on existe, et on a tout autant le droit d'exister dans les médias traditionnels que d'autres gens, quoi.
Et du coup, est-ce que tu penses que l'humour, du coup, permet ça, en fait ?
Oui, large. On peut dire tellement plus de choses par l'humour que les éditos journalistiques qui, eux, ont des contraintes, ont des règles. Il y a aussi des règles dans l'humour, hein, bien sûr, enfin, il y a aussi un peu des contraintes. On peut pas dire non plus ce qu'on veut, on peut pas dire n'importe quoi. Mais on peut dire tellement plus de choses, on peut sous-entendre des choses. L'humour absurde ou l'humour, l'ironie, le sarcasme, c'est un bijou pour critiquer les gouvernements et faire de l'humour un peu politique.
Du coup, ça revient à ma prochaine question. Du coup, le fait que pour toi, tout est politisé, est-ce que c'est important qu'à travers l'humour, on puisse dénoncer et sensibiliser ?
Ouais, moi je pense que c'est même le rôle de l'humour, c'est les bouffons du roi, c'est critiquer le gouvernement en place. Parfois, on reproche même un peu trop de critiquer la droite. Déjà parce que, parce que c'est le gouvernement en place. si on avait un gouvernement de gauche, t'inquiète que aussi les chroniqueurs critiqueraient le gouvernement aussi. Enfin, c'est hyper important l'humour politique. Et effectivement, tout est politique. Après, moi, ce que je me mets, c'est... j'essaie de faire une chronique légère, une chronique un peu plus lourde. Une chronique un peu plus politique, une chronique légère. J'essaie d'alterner un peu pour pas que ce soit tout le temps lourd, parce que c'est aussi... l'humour, ça doit aussi nous divertir, ça doit aussi nous faire penser à autre chose, parfois, même si, évidemment, tout est éminemment politique. Mais voilà, moi, j'ai choisi d'essayer de faire une semaine l'autre. J'essaie de m'y tenir le plus possible. Mais critiquer le pouvoir en place, c'est vraiment ma fonction principale.
Pourquoi l'humour serait un bon tremplin pour défendre des causes militantes, c'est-à-dire soutenir une idée ou un enjeu social, notamment comme tu as pu le faire avec Gisèle Pellicot et les drames au Liban?
Parce que l'humour, c'est nous faire sentir des choses. Le sarcasme, l'absurde, c'est nous faire sentir des choses. Quand une blague est bien construite aussi, les gens la retiennent. Plus que, par exemple, un édito journalistique. Et c'est vraiment pas du tout une critique. C'est vraiment le principe d'un journal, c'est d'être carré et tout. Parfois, les blagues, j'ai l'impression que les gens les retiennent. Moi, il y a des chroniques, c'est trop marrant. Les gens, ils me disent, putain, mais cette blague, genre, que t'avais fait dans cette chronique-là, je me rappelle encore, elle était trop drôle et tout. Et j'arrive toujours pas à m'y faire, mais je pense que c'est ça, ça nous fait ressentir des choses. Ça nous fait voir aussi des choses différemment. Parfois, on trouve un axe ou on trouve un prisme et on exprime une idée à travers ce prisme-là. Ou aussi, on fait beaucoup d'analogies, je trouve, dans l'humour. Et parfois, quand on compare les choses, les gens, ils sont là, ah ben ouais, enfin, trop marrant, et à la fois tellement vrai. Et donc, et je pense qu'il y a plein de procédés un peu humoristiques comme ça, qui font que grâce à ces procédés, ben, c'est plus facile d'être militant. En tout cas, c'est une des manières de militanter, bien sûr, c'est sûrement pas la seule et sûrement pas la meilleure. Mais en tout cas, c'est une des manières d'être militant, ouais.
Du coup, ici, maintenant, je vais plus te poser des questions un peu sur l'art, du coup. Mm-hmm. Et donc, je vais te poser cette fameuse question, est-ce que pour toi, l'humour, c'est de l'art?
Oui, large, ouais. Non, moi je pense que largement, là, l'humour c'est un art. Je pense qu'il y a même eu beaucoup de tournants majeurs sociétaux qui sont nés grâce à l'humour. Ça remet les choses en question et c'est très très important de critiquer et de remettre les choses en question.
Comme tu es un peu tombé dans l'humour malgré toi, sans avoir jamais fait de théâtre, etc., est-ce que pour toi l'humour, le stand-up en particulier, demande quand même certains codes?
Oui, il y a certains codes mais qui s'apprennent aussi sur le terrain. C'est pas comme le théâtre où il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve, que tu dois connaître, qui est très théorique, le théâtre, le stand-up. Tu vois, tu prends le micro et let's go, quoi. Encore une fois, moi, c'est de l'accessibilité. Hein, donc c'est quand même plus accessible et moins intellectualisé, même si c'est aussi... Il y a beaucoup de gens qui font des trucs très subtils, très bien écrits. C'est quand même très intellectuel aussi, mais c'est moins théorique. Il y a moins de freins.
Et est-ce que, du coup, s'il n'y a pas vraiment de code, ça fait quand même, c'est quand même de l'art?
Oui, hein, je ne pense pas que ce soit les codes qui définissent un art. Déjà parce que, d'une certaine manière, il y en a quand même dans le stand-up. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, c'est tellement large que beaucoup de gens même les brisent et ça crée plein de nouvelles formes de stand-up.
Et est-ce que c'est dur d'être une humoriste femme?
Ouais, quand même. Un peu moins maintenant, mais j'arrive pas à dire que c'est parce que les choses ont changé ou si c'est parce que j'ai commencé à trouver ma place et que du coup, les gens me respectent. Je sais pas du tout dire c'est à cause de quoi. Ça peut être un mélange des deux, mais c'est dur. Hein. Franchement, on m'a déjà présenté comme étant la petite copine d'eux, sans dire mon nom. Je me suis retrouvée sur des line-up où il y avait 7 mecs et moi.
Et tu te sens à l'aise quand t'es, par exemple, avec 7 mecs?
Ça dépend. Là, en l'occurrence, spécialement, c'était que avec des potes à moi qui sont hyper cool et hyper bienveillants. Donc ça a été. Mais tu sais, moi, une fois, je suis montée sur scène en larmes à Baston parce que le gars m'avait présenté comme étant la petite copine de...
Et comment ça se fait qu'il t'a coupé?
Parce qu'en gros, à l'époque, je sortais avec Nikos, ce qui est un autre humoriste, et il jouait juste après moi.
Et lui, du coup, plus connu?
Et lui, t'es plus... Moi, c'était au tout début. Enfin, c'était... Non, en vrai, c'était pendant le concours du Kings. Et donc, il était plus connu que moi à ce moment-là. Et donc, le présentateur à Baston avait dit « Bon, Nikos va arriver dans quelques minutes, mais juste avant, il y a sa petite copine. » Je suis montée sur scène, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Oh. Tu sais, j'ai des potes, on les a présentés comme étant la touche charme, quoi. La touche charme de la soirée. C'est pour dire... vous savez, moi, pour moi, c'est quand même important d'aligner des filles sur le line-up, donc... voilà, la touche charme de la soirée, et il présente la meuf, quoi. Franchement, il y a des fois, c'est des cauchemars, quoi, la manière dont les gens voient les meufs dans l'humour.
Cette misogynie dont a dû faire face Mélanie Akkari n'est pas la seule que ça révolte. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Laurence Rosier, qui s'est penchée sur cette problématique.
Linguiste universitaire et écrivaine et même humoriste à ses heures perdues, on pourrait encore aligner beaucoup de mots pour tenter d'énumérer l'ensemble de son parcours professionnel, mais il existe déjà une page Wikipédia remplie qui s'en charge. C'est dans notre commune d'Ixelles que Laurence Rosier est née en 1967. Elle est aujourd'hui professeure à l'Université libre de Bruxelles, où elle enseigne toujours l'analyse du discours et de didactique. Connue pour ses travaux sur l'insulte, elle aime provoquer, détourner et se réapproprier des codes que l'on croyait intouchables. À l'origine de l'exposition « Salope et autres noms d'oiselles », elle incite le malaise pour mettre en lumière la domination que certains champs lexicaux exercent sur les minorités. Donc si vous désirez un bouquet de fleurs pour les fêtes avec des jolis noms comme « Salope », vous écoutez la bonne émission.
Est-ce que pour vous, l'humour est un outil qui permet de se révolter face aux oppressions que les minorités subissent ? Est-ce que c'est une sorte d'arme d'émancipation ?
Quand on pense à l'humour, d'abord, l'humour, il y a l'humour des dominants et des dominés. Hein. Voilà, il va être utilisé de façon diverse. Il y a aussi l'humour de production et puis l'humour de réception. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est qui fait rire et de qui rit-on et qui rit. Tout ça, évidemment, je crois qu'il faut prendre ça en compte. Alors, je pense que l'humour et le militantisme, à la fois, l'humour peut dire des choses qui, dites de manière sérieuse, seraient moins audibles. Il y a aussi un côté presque aujourd'hui, on dit de joie militante, mais dans la joie militante, il y a cette dimension humoristique de connivence pour tenir le coup, tout simplement. Et dans toute l'histoire du militantisme, et pas que féministe, l'humour a toujours tenu une bonne place, ne fût-ce que, par exemple, dans les manifestations, les slogans, les détournements. Évidemment, quand on parle de l'humour comme possibilité de lutter contre les oppressions, c'est qu'on se place d'un point de vue en disant « moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humour des dominés et le fait de rire des dominants ». Hein, où il y a beaucoup de débats aujourd'hui, que par exemple quand Charlie Hebdo fait une sur Brigitte Macron, ben, ça me fait pas rire parce que oui, il rit d'une dominante, mais en fait il rit surtout d'une femme et d'une femme âgée. Et on voit qu'évidemment, ben, là, il y a rien d'émancipateur, au contraire, c'est très stéréotypé. Et donc ce que j'essaye de faire quand j'analyse l'humour, c'est toujours de dire, mais vous croyez que vous riez de quelque chose qui est émancipateur? Et en fait, non, vous faites des vieux stéréotypes hein, dans un pot de chambre, comme je dirais. Et ça peut faire rire certaines personnes, hein, je ne dis pas. Mais ce n'est pas cet humour-là qui m'intéresse. Alors après, quand certains font des insultes en disant « non, mais c'est de l'humour », ça m'intéresse aussi pour dire « ah bon, ça te fait rire ?» Et donc de voir aussi ces degrés entre l'humour et puis hop, on verse dans l'oppression, dans la stigmatisation ou dans l'abjection.
Comment les femmes peuvent se réapproprier cet humour qui est souvent perçu comme un art réservé aux hommes, mais surtout comment le faire sans rester dans un schéma patriarcal?
Alors oui, c'est vraiment une vraie question, parce que quand on travaille sur l'histoire du rire, alors il y a Sabine Melchior-Wetley qui l'a très bien fait, je m'en suis beaucoup inspirée, elle montre vraiment que c'est une question de pouvoir, hein, et que dans l'histoire, si on regarde un peu l'histoire du rire aussi, parce que les femmes, c'est ça, c'est faire rire, et puis simplement pouvoir rire. Il y avait cette idée que quand une femme riait, c'était indécent. C'est-à-dire, rire à gorge déployée, on voyait ses dents. Et donc, elle pouvait rire, mais vous voyez, hein, rire de façon justement convenue, etc. Donc, celles qui pouvaient rire de façon grasse, etc., c'est les femmes du peuple. Mais qu'on uniformise, c'est les femmes du peuple. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et très vite, on a alors associé le rire des femmes du peuple à la vulgarité. Voir aussi, on disait, les filles joyeuses, les filles de joie. Et les filles de joie, c'est une périphrase pour parler des prostituées. Donc on voit vraiment comment tout était dévalorisé par rapport à la question du rire. On connaît très peu, mais il y en avait, des bouffonnes de la reine. On connaît les bouffons du roi qui pouvaient... Il y a eu quelques bouffonnes, mais de nouveau, elles n'ont pas été mises sur la place publique. Donc il y avait vraiment une question du rire qui est lié au corps. Et on sait que le corps des femmes est évidemment très, très contrôlé. Hein, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est clair que les humoristes, elles font éclater tous les codes et elles cherchent à échapper à ce système patriarcal qui codifiait aussi les types de rires. Par exemple, le rire grivois, c'est-à-dire les allusions sexuelles, hein, où on va dire des mots concupiscents, ha ha ha. Les femmes, elles vont dire fellation, bite, etc. Et donc, elles vont parfois être très triviales. On va dire, mais vous êtes vulgaire. Et bah, vous avez pu l'être aussi. Et nous, on a envie d'abord de s'approprier ces codes-là. Et puis d'en changer. Parce que je pense que dans les mécanismes comme ça d'émancipation, souvent on reprend les codes d'abord du maître, du dominant, pour un peu s'en moquer, pour les retourner. Et puis après on cherche autre chose. Et donc moi ça m'intéresse vraiment tous ces jeux sur les codes entre réappropriation et émancipation.
Et du coup dans votre ouvrage La Riposte, vous évoquez du coup Olivia Gazellier.
Oui.
Et son ouvrage Le paradoxe de l'humour. Et donc, pour elle, l'humour, c'est un paradoxe, puisque c'est une arme qui permet de dénoncer, mais c'est aussi un outil d'oppression pour dévaloriser les femmes. Donc, est-ce que pour vous, l'humour est un paradoxe ?
Oh oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, l'humour, il appartient aux dominés et aux dominants. C'est-à-dire qu'on peut avoir un humour de mépris, un humour qui va isoler une personne, par exemple. Et on sait d'ailleurs, quand il y a eu la Ligue du LOL, qui donc harcelait des journalistes, ben, ils ont dit, ben, vous êtes de l'humour, en fait. Et donc, comme s'ils ne voyaient pas que l'humour pouvait, en effet, à partir du moment où il touche à l'identité des personnes, qu'ils insistent sur un humour qui est stigmatisant au sens de les stigmates, c'est-à-dire réduire la femme à son corps, la considérer comme pas intelligente, tout ça, c'est des choses, c'est vieux, je veux dire, hein, donc la femme potiche, etc. Et on voit que cet humour de dominant, il répercute toujours ces mêmes stéréotypes, de même à l'égard des personnes racisées, l'humour colonial, etc. C'est aussi les mêmes mécanismes où l'humour qui stigmatise, par exemple, quand on dit les autistes, hein, ou les personnes avec des handicaps. Donc, il y a tout un humour comme ça, et qui est là depuis très longtemps, hein, où on dit, on peut plus se moquer de personnes, mais avant, vous vous en moquiez. Mais ces personnes ne pouvaient pas dire, mais en fait, ça me fait pas rire. Alors, on est sur le fil, évidemment, parce que, par exemple, la caricature, on sait que la caricature, elle est, par essence, blessante. Mais ça dépend où elle blesse et qui elle blesse. Alors, c'est clair, par exemple, pour vous citer un exemple, Macron, on le critique à bon escient, parce que, en tout cas, quand on n'est pas d'accord avec sa politique. Mais moi, quand on commence à avoir des trucs qui relèvent de l'homophobie à l'égard de Macron, là, pour moi, je dis stop. Il faut bien se dire, là aussi, c'est un moment, vous faites avec des dominants, vous les attaquez sur des points où, en fait, ils rejoignent des dominés. Et donc, c'est assez complexe, hein, d'étudier l'humour. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il est paradoxal. C'est en ça qu'il suscite des débats. Et je trouve ça intéressant, les débats, hein, de dire, tiens, est-ce que ça te fait rire ou pas? C'est aussi, l'humour permet de montrer des complexités. Et l'autodérision, de nouveau, c'est facile d'avoir l'autodérision quand on a une posture où, par ailleurs, on est bien assise dans... Mais demander, je ne sais pas moi, à quelqu'un qui vit dans la rue, il y a un peu d'autodérision, hein, oui, c'est un peu... Voilà, là, ça, pour moi, ça devient indécent. Et donc, y a toujours un côté éthique qui est là, mais je m'oppose aussi à se dire, on ne peut plus rire de tout aujourd'hui. Mais si, moi, j'ai plein de pages Insta, je ris beaucoup et je vois que c'est un humour libérateur qui n'est pas oppressif. Alors, c'est vrai que ceux qui faisaient de l'humour à l'ancienne doivent maintenant un peu changer leur code. Mais c'est un peu normal, hein. Je veux dire, on riait de la guillotine au XVIIIe siècle, on n'a plus vraiment envie de rire de ça aujourd'hui. Donc, l'humour, de nouveau, évolue. Et moi, je trouve que là, il évolue justement dans la diversité. Et c'est très bien, aussi bien pour les personnes qui font de l'humour.
Vous écrivez également que la question n'est pas est-ce qu'on peut rire de tout, mais faut-il rire de tout?
Oui.
Qu'entendez-vous par là?
Mais en fait, c'est un peu provocateur parce que quand j'ai été invitée pour des trucs sur le rire, c'était les gens dans leur tête, ceux qui m'invitaient, c'était montrez-nous qu'on ne peut plus rire de tout, etc. Et donc, faut-il rire de tout? C'est aussi une autre interrogation, hein, cette injonction à quand t'as de l'humour, c'est bien. Et je partais justement d'exemples qu'il me citait souvent de Pierre Desproges, qu'on cite souvent en disant aujourd'hui, Desproges ne pourrait plus. Moi, je ne vois pas pourquoi, hein, si je relis Desproges, et Desproges en plus était très très soucieux, notamment pour les questions d'antisémitisme, en disant le sketch que je fais, je ne veux pas qu'il soit pris comme un sketch antisémite, parce que c'est un sketch pour dénoncer l'antisémitisme et pas un sketch sur les juifs. Et après, évidemment, la fachosphère reprenait des extraits de ce sketch. Donc voilà, alors on peut peut-être trouver des trucs qui relèveraient d'un certain esprit patriarcal, mais il se démontait tellement lui-même. Donc pour moi, c'est un mauvais exemple. Et faut-il rire? Moi, il y a des rire du viol, ça ne me fait pas rire. Alors il y a certaines humoristes qui arrivent maintenant à le faire, etc., mais d'une certaine manière. Je suis désolée, des sketchs comme le lâcher de salope de Bigard, non, ça ne me fait pas rire. Parce que c'est tellement... les stéréotypes à l'égard des femmes qui sont reproduits jusqu'à... Je vois pas où est la dénonciation. Donc, je pense que dire « faut-il rire de tout ?», ça désarçonne un peu aussi ceux qui disent « Ah, on peut plus rire de tout ». Posez-vous d'abord la question de, je sais pas, et aussi ces personnes, je sais pas, vous avez un enfant, par exemple, qui souffre d'un grave handicap, vous avez envie qu'on rie de lui ? Je suis pas sûre. Enfin, voilà, vous avez envie de rire du cancer ? Ah ben, Desproges, il le faisait, oui. Il avait un cancer, il riait de ça. Donc, c'est interroger les gens sur leurs propres limites. On doit prendre en compte toute cette dimension intime et collective du rire. Et ce sont des équilibres, hein. On ne peut pas faire rire tout le monde tout le temps. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'aussi des journaux dits humoristiques ou satiriques, ben, ils s'en prennent un peu plein la tronche maintenant. Parce qu'en effet, ben, tout le monde un peu réagit aussi et dit ben, « voilà, c'est pas rigolo, c'est... et on a le droit d'interroger, en effet, ce rire. » Et il y aura toujours des gens pour rire, hein, mais le rire est une force d'émancipation, mais ça peut être aussi parfois un rire qui est un rire d'oppression. Oui.
Comme le dit très bien Laurence Rosier, la vraie question n'est pas « est-ce qu'on peut rire de tout ?» mais plutôt « faut-il rire de tout ?» Et cette nuance change beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, rire de tout n'est pas indispensable. Et parfois, on peut très bien s'en passer. Surtout quand ça flirte avec la beaufrie. Par exemple, un « les femmes à la cuisine » suivi d'un rire bien bourrin, on peut franchement s'en passer. Cette idée rejoint aussi celle de la philosophe française Olivia Gazalet, qui explique que l'humour n'est jamais neutre. Il peut rassembler, oui, mais il peut aussi exclure. Tout dépend du contexte de la personne qui parle et de celle qui reçoit la blague. Pour elle, l'humour est à la fois libérateur et violent. Vanner son meilleur ami, qu'on connaît depuis des années, ce n'est pas la même chose que de se moquer d'un inconnu sur l'un de ses complexes. Avec un ami, il y a de la confiance, la connaissance des limites, un lien qui protège. L'inconnu, lui, n'a rien demandé, et encore moins de se prendre une blague gratuite qui peut réellement le blesser. C'est là tout le paradoxe de l'humour. Mal utilisé, il peut faire de vrais dégâts et banaliser des situations pourtant graves. Et maintenant, nous allons lancer la pause musicale.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. You. Dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi. Dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danse au revoir. Youhoupi, dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca, tant pis s'il faut dire.
venons d'entendre La Carioca, tiré du film La Cité de la Peur, et maintenant, voilà un dernier extrait de notre micro-trottoir.
Deuxième question, est-ce que pour vous, les humoristes sont des artistes ?
Tout à fait, parce que pour moi, faire rire les gens, c'est comprendre avant tout les autres. Et c'est une forme d'expression dans le sens où ça permet aussi également de mettre en lumière, par exemple, le côté introverti ou extraverti de la personne.
Moi, je dirais oui, parce que bah, y a des gens qui prennent ça comme une profession aussi. Du coup, c'est comme ceux qui font de l'art.
Moi, j'appellerais ça un art parce que c'est quand même assez compliqué d'inventer des blagues comme ça avec des personnes. Tu connais pas le public, tu sais pas si ça va leur faire rire ou quoi. Du coup, c'est pour ça que je dirais que ce serait vraiment un art, quoi. Mais après, l'humour, c'est pas que ça, c'est aussi genre rigoler avec ses potes, avoir des rêves qui nous font rire, juste des situations qu'on partage et tout aussi.
Et pourquoi ce serait pas des artistes ? Voilà, je pense que c'est des artistes parce que vous créez quelque chose, vous partagez quelque chose avec le public, donc oui, c'est de l'art.
Franchement, ouais, c'est ce qui fait bouger le monde. De temps en temps, on a besoin d'un peu d'humour, donc vraiment, ça nous fait du bien.
Bah non, moi je trouve que c'est des artistes parce que faire rire des gens, c'est compliqué, je trouve.
Eh bien, c'est des artistes. Ils nous font rire. On a besoin de ça.
À chaque fois que nous avons posé la question « Est-ce que l'humour est une forme d'art ?», quasiment tout le monde, pour pas dire tout le monde, a répondu « Oui » en cœur. Comme si la question était devenue rhétorique, tant la réponse semblait évidente. Pourtant, Laurence Rosier va prendre le temps de s'y arrêter, de revenir sur cette évidence apparente et nous expliquer pourquoi l'humour peut ou non être considéré comme un art. Donc on lui a demandé « Est-ce que l'humour, c'est de l'art ?»
Alors, on pourrait dire « Est-ce que la blague que l'on fait entre copines... » Et je ne sais pas moi, bah oui justement, une stand-upeuse, est-ce qu'il y a une différence ? Bah oui, il y a une différence de légitimité sociale, hein, où, puisque quand on est dans un certain type de cadre, si l'humour est dans un spectacle, l'humour est dans un livre, l'humour est, forcément, il est artistique de par le média qu'il a adopté. Maintenant, il y a quelque chose d'artistique dans les pratiques populaires, et dans les pratiques populaires au sens, pas le peuple, hein, pratiques de tous les jours, les pratiques quotidiennes. Parce que quelque part, on opère, quand l'humour est bon, on opère un petit décalage sur la réalité, on se sert parfois de métaphores, on joue avec la langue, et en ça, c'est peut-être un geste artistique déjà. Donc oui, je pense que, en tout cas pour certains types d'humour, hein, mais globalement, le savoir-faire humoristique témoigne déjà d'une réflexion sur la langue, sur son rapport au monde. Et en ça, il y a peut-être déjà dans cette espèce de distance et de volontairement essayer de créer quelque chose à partir de son regard, une sorte de geste artistique. Et donc je pense que c'est de l'art, clairement, parce qu'on joue avec son corps, on joue avec des références littéraires, on joue avec des références de la rue, on joue avec son autobiographie. Et à partir du moment où on met en scène, pour moi, on est dans une dimension artistique parce qu'on est dans quelque chose qui fictionnalise. Et quand on passe par cette petite entrée, même quand on fait de l'autofiction, on est dans une dimension artistique qui permet d'autres codes. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment.
Je pense qu'on peut terminer cette interview de Laurence Rosier ici, elle qui sensibilise justement à la question de l'humour, parce que oui, même avec un outil aussi usuel que l'humour, il reste important d'être conscient de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. On s'est rendu compte qu'à travers l'humour, de nombreux sujets pouvaient être analysés. Le métier d'humoriste, qui n'est pas accessible à tout le monde, la proximité qu'il permet de créer, la manière dont il peut transmettre des messages en touchant un public très large, et enfin, les limites qui accompagnent tous ces cheminements. Travailler sur ce thème a été un vrai plaisir. Déjà parce qu'il nous a rassemblés entre nous, alors qu'on ne se connaissait pas vraiment au départ, mais aussi parce qu'il nous a permis de rencontrer des personnes vraiment géniales et avec une facilité assez folle. L'humour, ça détend, et surtout, ça met tout le monde à égalité. Il n'y avait pas de meilleur témoignage qu'un autre, même si les milieux sociaux ou les façons de s'exprimer étaient très différentes. Finalement, on s'est rendu compte que tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui comptait, c'était de passer un moment convivial ensemble et que chacun ait sa place. Alors oui, je pense qu'on peut l'affirmer, l'humour, c'est un art. Parce que ce n'est pas si simple de savoir l'utiliser. Parce qu'il provoque des émotions, qu'il touche, qu'il rapproche. Parce qu'il permet de créer du lien, de dénoncer, de provoquer, de remettre en question. L'humour est partout, mais tout le monde ne sait pas le manier. Il peut être incroyablement précieux et parfois profondément dévastateur. Et s'il est un art, c'est justement parce qu'aucune autre discipline ne permet de faire tout ça en même temps. Même quand on s'est retrouvé dans un comedy club avec un type qui lisait son texte en bégayant pour parler de sa vasectomie pendant 10 minutes, ou quand on nous a forcés à chanter sur la mélodie des Champs-Élysées de Joe Dassin en tapant des pieds, on a accepté, on a ri, parce qu'au fond, c'est ça qui nous rassemble, l'humour.